Je voudrais ouvrir la parole avant de prendre le repas du Seigneur. Parce que je voudrais qu'on puisse prendre le repas du Seigneur en réfléchissant à ce qu'on aura vu ensemble. Et que peut-être on puisse prendre ce repas différemment. Et que ce soit un moment peut-être de restauration, de guérison, de renouvellement. Je crois que le moment de la Sainte-Cène, c'est un moment où il peut se passer des choses extraordinaires. Un moment de repentance, un moment où Dieu peut bénir d'une manière particulière. C'est pour ça que je voudrais partager avec ça d'une manière très très simple. On a chanté quelque chose de tellement important. Oh, quel amour et quel si grand prix tu as payé. Et je crois que par rapport à ce prix-là, ce prix si élevé, alors ça vaut la peine de se poser quelques questions. Et ce matin, je voudrais nous poser une question, mais le but, c'est de nous amener plus loin. Le but, c'est qu'on puisse... On puisse grandir. Je voudrais m'arrêter sur un psaume ce matin. Alors, je sais, on a tous nos psaumes favoris. Il y en a qui aiment le psaume 23, le psaume du berger. J'aime bien le psaume 51, le psaume du repentir de David. Il est magnifique ce psaume. On pourrait parler du psaume 73, Asaph, qui va pas bien et puis qui se relève et qui termine son psaume en disant « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Le psaume 119, je vais vous faire grâce ce matin. Ce n'est pas de tous ces psaumes dont je voudrais parler, mais m'arrêter sur un psaume que personnellement j'affectionne. Peut-être un de mes psaumes favoris, c'est le psaume 139. Un psaume de David, psaume 139. Et ce psaume, je le trouve magnifique parce qu'il nous révèle des choses extraordinaires. Par exemple, et peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin, je ne sais pas. Par exemple, que pour Dieu, nous ne sommes pas un accident. Il y a ce verset que nous connaissons bien, il va s'afficher, psaume 139, verset 16, où David dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés afin qu'aucun d'eux existât. » J'aimerais peut-être dire ce matin à quelqu'un qui se pense ou qui se croit être un accident que tu n'es pas un accident. Il y a tellement de gens, et parfois j'en ai entendu dire « Oh, mais moi je suis un accident. » Moi, je n'ai pas été désiré, je n'ai pas été voulu, j'ai été là, je me suis retrouvé là. Et on vit avec ça. J'aimerais te dire que pour Dieu, tu n'es pas un accident. Mais que pour Dieu, tu as une valeur extraordinaire. Alléluia. Puis vous avez remarqué que ce verset, il nous révèle aussi quelque chose qui, moi, m'interpelle. C'est que Dieu connaît nos jours du début à la fin. Avant qu'aucun d'eux n'existât, Dieu connaissait les jours qui m'étaient destinés. Nous, on connaît notre premier jour. En général, on ne l'oublie pas, on s'en souvient. Notre anniversaire. Je ne sais pas si c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Non ? Non ? Ah ! Si ? De Serge ? Ah bah tiens. J'aurais voulu le faire exprès que je... Bon anniversaire, Serge. Voilà. C'était pas prévu au programme, ça. Voilà. Mais je remarque que Dieu connaît même le dernier. Quelque part, ça m'interpelle. Parce que nous, on ne sait pas. Et vous avez déjà là une raison de pourquoi c'est bon de confier sa vie au Seigneur. Je ne sais pas si peut-être ce matin, nous l'avons tous fait. Mais si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur ce matin, j'aimerais t'encourager à le faire. Tu as là une raison, ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la primordiale. Mais une raison de pourquoi c'est bon de confier notre vie au Seigneur, parce qu'il connaît le premier et le dernier jour. Et je préfère confier ma vie à celui qui connaît ça, que de vouloir fonctionner seul. Donne ta vie au Seigneur ce matin. Et puis ce psaume, il nous révèle quelque chose d'autre sur lequel je voudrais m'arrêter. On va lire les quatre premiers versets. Regardez. David dit ceci, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Amen. Amen. » Ce que je voudrais qu'on retienne pour nous, plus particulièrement ce matin, moi je l'ai souligné dans ma Bible, c'est cette parole du verset 2, où David dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ça ce matin. On pourrait y associer ce qu'il dit au verset 3, parce que c'est pareil, c'est dans la lignée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Je vais vous avouer quelque chose. Pendant longtemps, quand je lisais ce texte, quand je lisais ce passage, je le prenais dans le sens premier, primaire. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Ouais, bon voilà. Tu le sais, et je me suis levé, tu le sais aussi. Pendant longtemps, j'ai pris ce psaume-là comme ça, sens premier, tu le sais. Voilà. Et puis, en réfléchissant un petit peu, je crois qu'il y a bien plus profond que ça. Il y a quelque chose de plus important que Dieu veut nous faire comprendre. C'est que Dieu sait exactement où nous en sommes sur le plan spirituel. Ce matin, quand Dieu nous regarde, il sait exactement où tu en es, si tu es assis ou si tu es debout. Tu sais quand je m'assieds, sur le plan spirituel, parce que parfois on peut être assis, arrêté, sur le plan spirituel, mais tu sais aussi quand je me lève, tu sais quand je suis debout, quand je suis en marche, et ça va dans la lignée verset 3, tu sais quand je marche, je suis en marche Seigneur, gloire à Dieu, mais tu sais aussi quand je me couche, à cause de ceci, à cause de cela, ça ne va pas. Et ce matin, quand Dieu nous regarde, il est parfaitement au clair de où nous en sommes, chacun et moi le premier. Le Seigneur le sait. Et je crois que c'est important de réaliser ça. Hein. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que plus d'une fois, vous retrouvez cela assis, debout. Et ce n'est pas simplement qu'une histoire de posture physique, mais derrière ça, il y a tout un message. Il est question surtout d'un état spirituel. Et alors par exemple, j'ai relevé 2-3 cas là, mais rappelez-vous, quand à Josué, Moïse venait de mourir et passer après Moïse, c'était pas simple. Et puis vous avez Josué qui est là et je l'imagine dans quel état il devait être. Moïse était quand même l'homme de Dieu, celui qui avait fait sortir le peuple d'Israël, et puis il est là complètement abattu. Et Dieu va lui dire ceci, Josué chapitre 1 verset 2, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi. Mais c'était pas simplement lève-toi, oh tiens si, maintenant lève-toi, mais lève-toi sur le plan spirituel, vas-y. Faire entrer mon peuple dans le pays de la promesse. Lève-toi, voyez. Position spirituelle. Prends courage, vas-y. Et peut-être ce matin, le Seigneur va dire à quelqu'un, mais lève-toi. Reste pas inerte, reste pas assis, mais lève-toi et rentre dans ce que Dieu a prévu pour toi. Je pense aussi, on aurait pu parler du fils prodigue qui, à un moment donné, vous connaissez l'histoire, hein, qui va rentrer en lui-même, et c'est bon de rentrer en soi-même. Va rentrer en lui-même, combien d'ouvriers chez mon père, on du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Je me lèverai. Mais là, c'est pas simplement, il ne parle pas simplement de se lever simplement d'une posture physique. Il était assis, hein, et puis il va se lever pour y aller. Non, mais c'est plus que ça. C'est une posture spirituelle. Je me lèverai parce que justement, ça n'allait plus. Et peut-être ce matin, tu as besoin de te lever ou te relever parce que ça ne va pas. Et la Bible nous dit, et il se leva et il alla vers son père. Alléluia. Et puis je pense aussi, en parlant des signes de la fin, à Jésus qui va dire ces paroles que nous connaissons dans Luc 21, verset 34, je pense que c'est bien de lire ces versets. « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Regardez le verset 36. « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. » C'est pas debout comme moi je suis debout là, mais de paraître debout sur le plan spirituel, de paraître debout, voyez. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, quand je suis par terre parce que ça va pas, mais quand je suis debout devant toi, tu le sais, tu sais dans quel état je suis. Et ce matin, je sais pas si on est conscient de notre état, mais je crois que c'est important de réaliser ce que réalise David ici, c'est que Dieu lui le sait. Dieu lui le sait. A contrario, on vient de voir des gens qui se sont levés, à qui il va être dit « lève-toi », vous en avez d'autres, vous les voyez assis. Et ce n'est pas qu'une posture assise, vous voyez. Je pense à un exemple en particulier, c'est Élie le sacrificateur. Rappelez, c'est celui qui avait ses deux fils qui filaient du mauvais coton et à qui Élie n'a rien dit. Si on voit un frère et une sœur qui ne va pas bien, de grâce, ne l'encourageons pas à rester dans cet état-là en disant « oui, je te comprends, tu sais, c'est vrai ». Mais au contraire, disons-lui, mais... Et c'est ce que Élie n'a pas fait avec ses deux fils, et Dieu va le lui reprocher, mais tu n'as rien dit, tu voyais que ce qu'il faisait, ça n'allait pas, tu voyais que la direction qu'il prenait, ça n'allait pas, et tu n'as rien dit, mais non. Et quand Jésus dit « mais si ton frère a péché, va et reprends-le », il dit pas « ne dis rien ». Péché, ou on pourrait mettre si ton frère va pas bien, ou si tu vois qu'il prend une mauvaise direction, ben, dis-le lui, voyez, dis-lui. Et c'est ce qu'on n'a pas fait Élie le sacrificateur. Et à un moment donné, il est dit ceci, vous rappelez, les Philistins avaient embarqué l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, ça symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et là, il nous dit ceci, regardez, 1 Samuel, chapitre 4, verset 12. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Et là, regardez, lorsqu'il arriva, Élie était dans l'attente, mais une attente, on est tous dans l'attente, hein. On est déjà tous dans l'attente du retour du Seigneur. Le tout est de savoir comment on l'attend. On est peut-être ce matin dans l'attente d'un exaucement de prière, dans l'attente d'une intervention de Dieu. Mais il ne faut pas attendre n'importe comment. Et lui, regardez, il était assis sur un siège près du chemin. Ça veut dire qu'il n'était même plus dans le chemin, il était à côté, quoi, près du chemin. Car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu, etc. etc. Mais ici, ce n'est pas qu'une posture physique. Oui, il est assis, évidemment. Mais c'était l'image de son état spirituel. C'était l'image de son état spirituel. Vous voyez ? Ce matin, avant de prendre le repas du Seigneur, ça vaut la peine de se poser la question. Pas pour s'enfoncer, mais au contraire pour dire, mais Seigneur, toi qui sais quand je me lève et quand je suis assis, quand je marche et quand je me couche, toi qui sais où j'en suis, Seigneur, montre-moi. C'est important. C'est important. Et par rapport à ça, j'aimerais dire ceci, et ça sera mon deuxième point. C'est que il n'y a rien de plus terrible qu'à ce niveau-là, être dans l'illusion. Dans l'illusion. Et dans la Bible, vous avez des tas d'exemples de gens qui, par rapport à leur état spirituel, mais ils étaient dans l'illusion. Alors, je vais vous en citer deux ou trois là. À la Odyssée, ils étaient dans l'illusion. Parce que tu dis, voilà ce qu'ils disaient, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je ne sais pas ce qu'on dit de nous ce matin. Qu'est-ce que tu dis de toi ? Ce n'est pas interdit de se dire, qu'est-ce que je pense de moi ce matin ? Qu'est-ce que je pense de moi ? Ou est-ce que, quand je fais mon introspection personnelle et que je suis là devant Dieu, mais qu'est-ce que je dis de moi ? En tout cas, eux, ils disaient, oh, nous, on est impec. Nous, il n'y a pas de problème. Et le Seigneur dit, et que tu ne sais pas, c'est terrible ça, que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Dans l'illusion, c'est l'Odyssée, c'est l'église de l'illusion. Et vous savez que c'est un peu l'image de l'église des derniers temps. Et je ne voudrais pas que ce matin nous soyons des croyants dans l'illusion quant à notre état spirituel. Si ça ne va pas ce matin, mais autant se dire la vérité. Seigneur, ça ne va pas, je suis complètement assis, je suis arrêté, plutôt que d'être dans l'illusion. Je pense aux vierges folles, mais elles étaient dans l'illusion. Elles étaient dans l'illusion, mais jusqu'au bout. Déjà, elles ne prennent pas d'huile, elles prennent la réserve d'huile, et elles pensent que ça suffira. Première illusion. Deuxième illusion, c'est quand l'époux arrive, elles vont dire aux autres, donnez-nous de votre huile. Comme si les autres allaient pouvoir faire ce qu'elles n'avaient pas fait pour elles, voyez ? Notre illusion. Et troisième illusion, c'est quand les autres vont lui dire, mais allez chez ceux qui vendent de l'huile, allez en chercher. Et elles pensaient qu'elles avaient le temps d'aller en chercher, puis de revenir et que ça serait bon. Mais vous voyez, complètement dans l'illusion. Et puis on pourrait parler de ces gens dont Jésus va parler, Matthieu 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Et Jésus va dire, plusieurs me diront en ce jour-là, je ne sais pas qui sont ces plusieurs, mais plusieurs me diront, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Pour eux, c'était bon. Et je leur dirai, retirez-vous de moi. Ils étaient dans l'illusion. Ils pensaient qu'ils allaient arriver, qu'ils allaient sortir la médaille, qu'ils allaient sortir le certificat de, je sais pas moi, de prophète ou de truc, de... Mais c'était dans l'illusion. Vous qui commettez l'iniquité. Donc je me dis, ils commettaient l'iniquité et ils pensaient que, parce qu'à côté, il y avait quelques résultats, ce qui montre bien que Dieu n'honore pas l'homme, mais il honore toujours sa parole. Ils pensaient que ça allait passer dans l'illusion. Dans l'illusion. Il n'y a rien de plus terrible que d'être dans l'illusion quant à son état spirituel. Et si c'est le cas ce matin, mais Seigneur veut qu'on sorte de là. Non pas pour nous taper dessus, mais pour qu'on dise, mais Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Toi qui sais quand je m'assieds, quand je me lève, aujourd'hui tu sais où j'en suis. Deuxième cas de figure, c'est plus qu'être dans l'illusion. Il n'y a rien de plus terrible que de se mentir à soi-même. C'est terrible de se mentir à soi-même. Voyez, on se ment. C'est Jacques qui dira dans son épître, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » On se trompe soi-même, on se ment à soi-même. C'est dingue ça. Se mentir sciemment. Voyez, non, ça va, c'est bon. Et souvent, vous savez comment on se ment? En se comparant aux autres. Ouais, mais bon. Ouais, moi, c'est pas top, mais bon, alors lui... Hein? Pasteur, je vous dirai pas. Hein? Hein? Vous voulez savoir de qui je vous parle? Vous voulez que je vous dise le nom? Je vais vous le dire. Hein? Voyez? Et on se rassure, on se ment. Bon, j'ai même un peu d'humour, mais on se ment. Voyez? Je crois qu'il y a des croyants qui se mentent. Mais je le dis vraiment avec beaucoup d'amour et de respect. On peut aimer le Seigneur et pourtant se mentir. Et je vais prendre un exemple. Dans la parole, vous en avez un qui s'est menti. Et qui s'est menti, c'était pas n'importe qui, il s'est menti pendant un an. C'est David. L'homme selon le cœur de Dieu pendant un an environ, hein, il s'est menti. Vous savez ce qu'il a fait avec Bathsheba, vous savez ce qui s'est passé. Non seulement il y a eu l'acte de l'adultère, mais il y a eu ce qui s'est passé autour, les dommages collatéraux qu'on a. Et encore, c'est peu dire. Hein. Et puis pendant un an, il a continué à être roi. Et quand je réfléchissais à ça, j'essayais de m'imaginer le David, faire ce qu'il avait à faire, ses petites affaires, ses petites sorties, tatati, talala. Et c'était toujours le roi. Et le ciel, il n'est pas tombé sur la tête. Hein. Mais pendant un an, il s'est menti sur son état. Et il a fallu que Dieu envoie Nathan le prophète pour lui ouvrir les yeux, parce qu'il se mentait à lui-même. Et je suis convaincu qu'il n'y aurait pas eu Nathan le prophète, il aurait continué encore longtemps comme ça. Voyez, on se ment. Voilà, on préfère se mentir. Voyez. Et vous rappelez-vous, même quand il se ment tellement, que quand Nathan lui raconte la petite histoire, vous rappelez? Un homme avait la brebis, tatati, il avait plein de brebis, et puis il est venu prendre la brebis de celui qui n'en avait qu'une seule. Oh, il s'est mis en colère, il a dit, mais cet homme-là mérite la mort. Il a fallu que Nathan lui dise, mais c'est toi ça. Il ne s'en rendait même plus compte. Pour vous dire comment il se mentait à lui-même. Il se mentait à lui-même, c'est terrible, vous voyez. Peut-être, mon frère, ma sœur, ce matin, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Peut-être c'est l'occasion ce matin de dire, Seigneur, je veux arrêter ça. Peut-être ce matin, loin de moi, vouloir jouer au prophète, mais peut-être comme Nathan, peut-être le Seigneur voudrait te dire, tu es ce chrétien-là, tu es ce frère-là, tu es cette sœur-là. Tu te fais croire que ça va, qu'il n'y a pas de problème, que ça passera, que c'est pas grave, que ça peut rester comme ça. Mais tu te mens. Et peut-être ce matin, ça ne voudrait t'interpeller, mais par amour. Pas pour la destruction, mais pour qu'il y ait une réaction. Parce qu'on l'a lu. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Lui, il le sait. Voyez, quand il nous regarde... Il voit exactement où nous en sommes. Et puis, vous avez une troisième catégorie. Alors là, c'est encore autre chose. Il y a ceux qui sont dans l'illusion. Il y a ceux qui se mentent. Et c'est une petite variante. C'est ceux qui ne préfèrent pas se poser la question. C'est légèrement différent. Ils ne préfèrent pas se poser la question. Vous voyez, on ne préfère pas savoir où on en est. Voilà. On ne se pose pas la question. Hein, on continue. Hein, les bilans, non, pas trop. Voyez, et on ne se pose pas trop la question, on ne préfère pas se la poser parce que ça nous évite justement de nous remettre en question. Parce que quelque part, ça nous évite de changer quelque chose. Parce que si on commence à réfléchir, peut-être on va se dire qu'il y a des choses à rectifier. On ne se pose pas la question parce que peut-être ça nous arrange. Ça nous arrange. Voyez. Et là aussi, je pense à un qui, à un moment donné, son cas m'interpelle dans la parole et parce que je me dis mais comment à un moment donné il s'est pas dit mais ça va pas quoi. Lot. Lot à Sodome et Gomorrhe. Je me dis, mais comment cet homme-là, à un moment donné, il ne s'est pas dit, ça ne va pas. La dégradation de l'état d'esprit, de la mentalité de ses filles, ce n'est pas venu du jour au lendemain quand même. Il a bien dû se rendre compte que, vous voyez, sa famille, et puis l'apôtre Pierre dit dans son épître que ce juste tourmentait journellement son âme. Donc il s'est bien rendu compte qu'il y avait des trucs, c'était pas top quoi. Il voyait des choses qui, vous voyez, je me dis, mais comment ça se fait ça? Comment ça se fait? Ben parce qu'il ne s'est pas posé la question, ça lui convenait, ça l'arrangeait. Il y trouvait son compte, hein, finalement. Parce que sinon, si on n'y trouve pas son compte, on s'en va. Hein. Vous voyez? Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Hein, à un moment donné, qu'il ne se soit pas dit, mais je ne suis pas à ma place, là. C'est pas ma place, là. Ça va pas. Vous voyez? Ça va pas. Et rappelez-vous, quand les anges sont venus le trouver, parce que Dieu est bon, quand même, hein. Vous savez, ce matin, c'est un message qui est là pour nous dire Dieu est bon. Ce n'est pas un message pour nous enfoncer, hein, mais c'est parce que Dieu est bon. C'est parce qu'il sait où nous en sommes qu'il y a des choses, il les remet devant nos yeux. Quand les deux anges arrivent, regardez, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et encore une fois, et Lot était assis. Il était assis à la porte de Sodome. Et quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Vous voyez, donc, oui, il y avait quand même, vous voyez, il se prosterna, vous voyez, il y avait des choses quand même. Ouais, mais il était assis. Bien sûr, posture physique. Mais alors là, il faut un peu, je ne vais pas faire le savant, mais ça s'appelle un peu de l'herméneutique. Hein. Quand il est dit qu'il était assis à la porte de Sodome, ça a une signification. Ce n'est pas simplement assis à la porte de la ville. Ça veut dire que Lot faisait partie des notables de la ville. Vous savez qu'à l'époque, à cette époque-là, alors je vais prendre cette image, à l'époque, aujourd'hui on a la mairie, et puis vous avez le maire, et puis vous avez ses adjoints, et puis on se réunit, on délibère pour le bien de la ville, etc. etc. Mais là c'est la même chose. À cette époque-là, à la porte de la ville, se tenaient les juges, enfin ceux qui faisaient office de décideurs un peu, vous voyez. Et on se rend compte que l'autre, il est là-dedans. Il est là-dedans. Et quelque part, j'allais dire, il fait partie un petit peu, il s'est fait sa place, quoi. Il s'est fait sa place. Donc, quelque part, ça lui convient, hein. Il a son mot à dire. Bon, on l'écoute pas, mais enfin, il a son mot à dire, vous voyez. Mais s'il est assis là avec les autres, il fait partie des gens qui peuvent dire ce qu'ils ont à dire, etc., n'empêche que ça révèle son état spirituel. Et d'ailleurs, la suite du texte, on ne va pas tout lire, mais je prends juste le verset 15, un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire, les anges? Ils vont lui dire quoi? Ils vont lui dire, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, quoi? Lève-toi, reste pas là. Il faut que tu sortes de là, et vite. Vous voyez? C'était pas poser la question. Ma foi, il préférait pas se la poser d'ailleurs. Je pense que ça lui convenait. Vous voyez? Que ça l'arrangeait, que faisait avec. Vous voyez? Se pose pas la question. Et peut-être ce matin, le Seigneur, peut-être mon frère, ma soeur, peut-être un de ses enfants, le Seigneur veut te dire, il faut que tu sortes de cet état. Il faut que tu sortes peut-être de cette situation dans laquelle tu es et qui n'est pas ce que Dieu veut. Sodome et Gomorre, c'est l'image de tout ce que Dieu désapprouve. C'est l'image de toutes ces manières de fonctionner que Dieu désapprouve. C'est l'image de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Voilà. Et on peut s'être installé dans quelque chose dont on sait quelque part, mais bon, on continue de lire sa Bible, on continue de venir à l'église, on continue de prier, on continue. Vous voyez, lui, il a vu les anges, il les a reconnus. Hein. Il s'est pas dit, tiens, c'est qui ceux-là? Non, non, il les a vus, il a compris que c'était les anges, et puis il s'est même prosterné devant. Donc vous voyez, il avait des restes quand même, il n'était pas mort quoi, spirituellement parlant. Et peut-être ce matin tu te dis, mais je ne suis pas mort spirituellement parlant, gloire à Dieu. S'il y a encore un peu de vie, gloire à Dieu. Mais il y a des choses, il faut en sortir quoi. Et peut-être ce matin, c'est un dire, mais lève-toi. Parce que moi je sais où tu en es, si peut-être toi tu n'en es pas conscient, si peut-être toi tu es comme l'autre, tu es là, et tu ne réalises pas ou tu ne préfères pas te poser la question, mais il faut se la poser ce matin. Ah, ça n'a pas été simple, hein, parce que... hein, légende. Vous avez vu, il a perdu sa crédibilité, quoi. Vous savez, quand on reste dans une situation que Dieu désapprouve, on perd sa crédibilité spirituelle. On perd sa crédibilité. On perd tout, quoi. Petit à petit, lentement mais sûrement. Et peut-être ce matin, le Seigneur veut dire, mais il faut que tu sortes de là. Lève-toi. Lève-toi. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où nous en sommes ce matin vis-à-vis du Seigneur. Peut-être nous sommes dans une de ces trois postures. Peut-être on est dans l'illusion. Peut-être pire, on se ment à soi-même. Peut-être on ne se pose pas. On préfère pas se poser la question. Ça va très bien comme ça. Ça me va. Mais ce matin, peut-être le Seigneur veut justement nous amener à faire une introspection personnelle, à rentrer en nous-mêmes pour dire, mais où est-ce que j'en suis? Il faut savoir. C'est une question, et je vais le dire, de vie ou de mort. Il faut, ne sors pas de ce lieu sans savoir où tu en es. Ou en disant, non, moi je préfère pas ça, ça me va comme ça. On verra bien. Non. L'apôtre Paul disait, vous connaissez ce verset, 2 Corinthiens 13, verset 5, hein, examinez-vous vous-même pour savoir, il faut savoir si vous êtes dans la foi ou à côté de la foi. Parce qu'on peut être à côté. Hein. On peut être à côté. Il y avait le chemin étroit et resserré, et puis nous on marche à côté. Alors c'est vrai qu'en marchant à côté, on le voit, hein, mais on n'y est pas dedans. Et Paul dit, mais examinez-vous vous-même. Il faut savoir. Et ce matin, avant de prendre le pain et le vin, mais Seigneur, je veux savoir si. Je veux pas être dans l'illusion, je veux pas être dans le mensonge, me mentir à moi-même, hein, pensant que, ouais, bah, comme David, je veux pas, Seigneur, être comme l'autre, ne pas me poser la question. Seigneur, mais toi qui sais quand je m'assieds et quand je me lève, quand je marche et que je me couche. Seigneur, mais montre-moi. Et je vous garantis que quand on le fait, Dieu nous montre. Dieu nous montre. Des fois, ce qu'il nous montre, pas trop ce qu'on voudrait voir. Hein. Mais je me mets dedans. Hein. Je vais vous avouer un truc. Je dis souvent à Rosetta en ce moment, j'arrête pas de me repentir. J'ai l'impression que je fais que me repentir. Mais je crois que c'est comme Pierre, vous savez, quand Pierre il s'est approché de Jésus, il va dire, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Pourtant, Jésus ne lui avait même pas parlé de ça. Mais c'est comme, je prends souvent cet exemple, c'est comme le soleil dans le pare-brise. On a toujours l'impression que notre pare-brise, il est propre, hein, il est nickel. Hein. Et puis quand vous avez le soleil qui frappe dessus, vous vous rendez compte qu'il est pourri. Vous dites, c'est pas possible, il y a des taches partout. Ben nous, c'est pareil. Plus on s'approche du Seigneur, plus sa lumière vient pénétrer et plus on se rend compte des trucs qu'on s'était même pas... Et on dit, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi, secours-moi. Tu vois ça. Parce que toi, Seigneur, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu sais où j'en suis. Et ce matin, je voudrais tellement qu'on puisse prendre le repas du Seigneur. On va le prendre dans quelques instants. En disant, Seigneur, montre-moi. Pour que vraiment je puisse grandir, je puisse aller plus loin. Et pour que le jour où tu reviennes, parce que moi, je ne sais pas quand Jésus va revenir, mais je puisse paraître debout. Debout. Je termine. David commence ce psaume 139 en disant « Tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. » On aurait pu s'arrêter sur d'autres choses. Hein. « Tu pénètres de loin ma pensée. » Vous avez réfléchi à ça? Ce matin, le Seigneur sait exactement ce que nous sommes en train de penser. Ouh, vite qu'il finisse, hein, parce que ça chauffe. Hein. Il le sait, le Seigneur. La parole n'est pas sur ma langue que déjà au Éternel, tu la connais. Bon. Alors, mais j'ai rien dit. Ah oui, mais tu n'as rien dit. Mais le Seigneur, il sait ce que tu pensais, ce que tu disais, ce que tu allais dire. Et, donc si le Seigneur, ça va jusque-là, il sait tout ça, la pensée, même avant que la parole sorte, il la connaît. S'il sait quand je m'assieds, quand je me lève, pensez pas que ça vaut la peine de dire, Seigneur, aide-moi. Et regardez, comment ce psaume de cette façon, je comprends pourquoi il dit, on le chante souvent, mais on va le chanter d'ailleurs, avant de parler au repas du Seigneur, je comprends pourquoi la fin du psaume termine de cette façon, psaume 139, verset 23, où il dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » S'il y en avait un qui vivait ces paroles, qui savait ce qu'elles voulaient dire, qui en mesurait la profondeur, c'était lui. Parce que justement, lui, pendant un an, il s'était menti à lui-même. Pendant un an, il avait joué aux chrétiens. Pendant un an, il avait fait semblant. Vous voyez ? Mais il dit, « Mais Seigneur, éprouve-moi. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, si peut-être j'étais dans l'illusion, mais montre-moi, Seigneur. Parce que je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas passer à côté. Ce matin, je ne sais pas où on en est. Je ne peux pas parler pour les autres. Je vais au moins déjà parler pour moi. Enfin, je m'examine moi-même. Mais c'est important de savoir. Examinez-vous vous-même pour savoir. Il faut savoir. Où est-ce que j'en suis, Seigneur ? Et surtout de réagir en conséquence. Et de dire, bon, mais Seigneur, j'ai besoin de me lever ce matin. J'ai besoin de me relever ce matin. J'ai besoin de reprendre force ce matin, de reprendre courage. Je ne peux pas rester comme ça. Parce que si je reste comme ça, hein, vous avez remarqué qu'il y a quand même une progression dans ce psaume. Tu sais, quand je m'assieds, quand je me lève, mais après, c'est je marche et je me couche. Parce que si on reste assis, l'étape d'après, c'est coucher. C'est coucher. Et puis l'étape d'après, c'est mort. C'est mort. Alors ce matin, que vraiment on puisse dire, Seigneur, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Et peut-être même m'adresser à, peut-être je voudrais terminer par là, m'adresser peut-être même à, peut-être aux amis qui sont là, toi qui peut-être n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. C'est important que tu saches où tu en es, spirituellement parlant. Il faut que tu le saches. Et pour être sauvé, il faut réaliser qu'on est perdu. Vous voyez ? Pour dire Jésus mon sauveur, il faut réaliser que j'ai besoin d'un sauveur. Que j'ai besoin d'un sauveur. Et peut-être ce matin, c'est l'occasion aussi que le Seigneur te donne à toi aussi de dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis, moi ? Face à l'éternité, face à toi, si je me présente devant toi, où est-ce que j'en suis ? Mais si tu entends ces choses et que tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, tu n'as pas fait, tu n'es pas passé par la repentance, tu n'as pas confessé Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, mais ce matin, c'est l'occasion. Pour dire, ben Seigneur, je réalise ce matin que je ne suis pas en règle et que j'ai besoin d'être sauvé. Viens me sauver ce matin. Et tu vas ressortir de ce culte en pouvant chanter, je suis enfant de Dieu. J'étais perdu et je ne le savais pas. Mais ce matin, tu m'en fais prendre conscience. C'est aussi un moment de salut, ça. C'est aussi un moment de salut. Alors ce matin, il faudrait qu'avant de prendre le pain et le vin, on puisse chanter ce chant, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Comme une prière, ce n'est pas un chant pour un chant, là. C'est vraiment la prière qu'on fait monter devant Dieu, chacun personnellement. Et on est en train de lui dire, Seigneur, toi qui sais quand je m'assieds, quand je me lève, quand je marche et quand je me couche, toi qui connais ce qu'il y a à l'intérieur, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur et fais ton œuvre en moi ce matin. C'est un moment solennel, c'est un moment sérieux, c'est un moment important. Il y a des choses qui peuvent changer, il y a des choses qui peuvent se débloquer ce matin. Il y a des choses qui peuvent se débloquer. Il y a des situations qui peuvent se débloquer. Si simplement ce matin, on dit, oui, Seigneur, je ne réalisais pas. Mais ce matin, tu mets le doigt par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, viens, je te demande pardon. Seigneur, relève-moi, renouvelle-moi, restaure-moi ce matin. J'ose même dire que ce matin, il peut y avoir même des guérisons physiques ce matin. Parce qu'on réalise tout d'un coup, on ouvre les yeux. Et là, tout d'un coup, les choses se font jour. Et là, le Saint-Esprit vient et nous renouvelle. Alléluia. Et nous renouvelle. Seigneur, ce matin, sommes devant celui qui sait tout. Tu es omniscient. Tu sais quand nous nous asseyons, quand nous nous levons, quand nous marchons, quand nous couchons. Tu sais tout de nous, Seigneur. Je veux rien cacher, Seigneur. Ce matin encore, je m'humilie devant toi, Seigneur. Je me sens, Seigneur, pécheur comme Pierre. Je pourrais te dire ce matin, retire-toi de moi, retire-toi de nous. Et pourtant, Seigneur, tu ne t'es pas retiré de Pierre, au contraire. Seigneur, ce matin, tu ne te retires pas de nous. Au contraire, tu veux, Seigneur, réhabiliter, sauver, restaurer, guérir, renouveler. Passe par le Saint-Esprit dans ce lieu ce matin. Et si quelqu'un n'est pas sauvé, qu'il fasse ce pas ce matin. Te dire, oui, Jésus, je ne veux plus rester comme ça. Oui, Jésus. Si peut-être il y a des choses à remettre en ordre, prends la décision ce matin devant Dieu de remettre en ordre. Dire, Seigneur, je vais remettre en ordre, Seigneur, les choses à remettre en ordre. Je vais faire ce qu'il y a à faire. Parce que je veux de ta bénédiction, je veux de ta grâce, je veux de ta vie en moi. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu vois nos cœurs devant toi ce matin. On ne peut rien te cacher. On ne peut rien te cacher. C'est toi qui lis dans les cœurs, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, visite-nous ce matin. Fais ton œuvre, Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur. Ce qu'un homme ne peut pas faire, ce qu'un pasteur ne peut pas faire, par ton esprit, tu le fais ce matin. C'est toi qui convaincs, Seigneur. Peut-être même un croyant, Seigneur, qui est en train de se perdre, Seigneur. Seigneur, que ce matin, il puisse se lever et sortir, Seigneur, de cet état-là, Seigneur. Peut-être un chrétien, un croyant, un frère, une sœur qui s'illusionne, qui puisse sortir de cet état-là ce matin. Seigneur, viens, Jésus. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire. Son